En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bienvenue, nous sommes de nouveau sur les voies de l'engagement
sur IDFM Radio.
L'émission qui s'attache à accueillir des gens inspirants, qui s'engagent, qui militent, qui défendent des belles causes. Et aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Froissart, qui a accepté gentiment de nous rejoindre sur cette émission Les Voies de l'Engagement, et Sophia, qui est une historienne de l'art et qui va se présenter tout à l'heure et nous parler un peu plus de son parcours. Nicolas et Sophia, ce sont des gens exceptionnels qui sont engagés chacun à leur manière depuis de longues dates et qui vont nous parler de leur parcours, nous dire un petit peu comment ils entrevoient la vie en société et chacun par son prisme. Alors, d'abord, depuis les premières peintures sur les parois des cavernes, l'art a toujours été un acte d'engagement. Peindre, sculpter, chanter, c'est dire au monde « je vois, je ressens, je témoigne ». À travers les siècles, les artistes ont pris position. Michel-Ange interrogeait la foi et l'humanisme. Goya dénonçait la guerre. Delacroix peignait la liberté. Et Picasso, avec Guernica, transformait la douleur du monde en cri universel. Aujourd'hui encore, les artistes comme Basquiat, Banksy ou Ai Weiwei prolongent ce geste. Celui de résister, de questionner, de réveiller les consciences. Parce qu'au fond, l'art engagé, c'est ça. Un souffle qui traverse des siècles, le refus du silence et la conviction qu'à travers la beauté, on peut changer le réel. Sophia, bonjour. J'imagine que ce que je viens de dénoncer te dit quelque chose, te parle un petit peu.
Ah oui, forcément, sachant que Delacroix est quand même mon peintre préféré. Et il a peint effectivement, justement, enfin, les trois jours glorieux avec la liberté guidant le peuple qui se soulève contre Charles X. Tout à fait.
Alors, Sophia, dis-nous qui tu es. Tu as inondé les réseaux sociaux. Je parle peut-être d'abord peut-être sur LinkedIn, mais c'est ce que tu as en commun aussi avec Nicolas Froissart, parce que c'est comme ça que vous vous êtes fait connaître. C'est de mettre en avant, pas vous, mais de ton côté l'art, Nicolas, des gens engagés, militants, qui font bouger les lignes. Et toi, tu nous parles un peu du passé, mais comme d'une certaine manière, on a le sentiment que les gens qui faisaient bouger les lignes ont laissé une trace, celle de l'art en particulier. Alors, Sophia, qui tu es et d'où tu viens? Peut-être commencer par là.
Oui, comme disait mon ancien professeur au début, le commencement. Alors, je m'appelle Sophia Azouz, j'ai 36 ans et je suis historienne de l'art désormais à Paris Musée. Et j'écris très modestement sur les réseaux sociaux pour démocratiser la culture et l'histoire de l'art. Quelque chose qui paraît aujourd'hui un peu désuète, comme quelque chose de passéiste en fait, pour rendre accessible. Parce que moi-même, j'ai aussi souffert quand j'étais jeune enfant et quand j'ai grandi en banlieue, justement, de ne pas être à ma place et qu'on m'ait dit tout simplement que l'histoire de l'art, c'était pour les riches.
Alors, l'histoire de l'art, c'est pour les riches, mais tu fais la démonstration du contraire, puisque ton parcours à toi, il n'est pas celui d'une héritière ou celui d'une fille issue de l'élite, etc. Et ça peut donner aussi peut-être de l'espoir pour certains qui veulent rejoindre ce milieu, d'arriver peut-être à copier ou imiter ton parcours.
Bah, tout à fait, je l'espère. C'est pour cela que j'aime beaucoup Bourdieu, qui est une référence pour beaucoup sur le déterminisme social. Et comme disait Gisèle Halimi, en fait, s'extraire à tout prix, en fait, tout simplement. Et je pense que la passion amène à beaucoup de choses. Il faut aussi beaucoup d'abnégation, mais j'invite vraiment toutes les personnes, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'écris, de ne jamais se résigner, de ne jamais se laisser abattre et croire en son destin.
Merci Nicolas. Sophia, pardon. Nicolas, un acteur majeur de l'engagement associatif et de l'innovation sociale, juriste de formation. Tu me corriges Nicolas si je dis des erreurs. Il a d'abord fait ses armes dans le secteur de l'action sociale au sein du groupe SOS, qu'il a accompagné pendant plus de 20 ans. Passant d'un rôle opérationnel sur le terrain à des fonctions de direction. En août 2023, il a pris la direction de l'association La Fresque du Climat, qui œuvre à sensibiliser à grande échelle aux enjeux du changement climatique, ô combien d'actualité évidemment, via des ateliers pédagogiques, dynamiques, répartis dans le monde entier. Il reprend une nouvelle direction, il nous en dira un peu plus tout à l'heure, et il nous expliquera un peu de quoi il s'agit. C'est une nouvelle aventure pour lui, je crois. Avec lui, nous allons explorer comment on passe de l'action sociale de réparation à la prévention systémique, comment l'engagement associatif peut impulser un changement de mentalité, de modèle, comment rendre la transition écologique désirable, joyeuse, loin des discours effrayants. Mais surtout, il nous expliquera comment allumer la flamme de l'engagement, cette flamme qui nous permet d'être au service d'un monde meilleur, plus juste, plus à l'écoute et ouvert à la différence. J'ai travaillé avec Nicolas, je le connais bien, je connais son engagement. Il a été un dirigeant au groupe SOS, un dirigeant extraordinaire, inspirant, influent, cherchant à faire bouger les lignes, de ces gens en fait qui vont sur des postes de direction ou de gouvernance parce que ils ont le sentiment peut-être de pouvoir faire bouger les lignes à cette échelle-là, et aussi parce que leur parcours et leurs compétences leur permet. Nicolas, bonjour. Est-ce que là, le tableau que j'ai posé et dressé à ton sujet, est-ce qu'il est fidèle à ton parcours?
Oui, j'ai l'impression.
Ouais. Alors, Nicolas, tu t'es fait beaucoup remarquer, alors pas vraiment toi, parce que ça ne te ressemble pas de chercher la lumière, t'es plutôt quelqu'un d'assez discret, etc. Mais tu mets en avant des gens extraordinaires. J'en ai découvert plein sur LinkedIn et je crois de mémoire que tu as commencé à mettre en lumière des gens de terrain, des gens engagés, militants du secteur associatif, mais pas que, pendant le confinement. Je crois que c'est à ce moment-là où tu as démarré, où tu as décidé de mettre en lumière ces gens-là. Et je crois qu'il y avait un terme, c'était « dénonce tes héros », je crois. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre cette série. Et c'est à peu près à la même période où j'ai aussi vu Sophia arriver. Cette période, finalement, du Covid, ça n'a pas été qu'une période traumatisante pour tous. Ça a été aussi une période qui a révélé aussi un sentiment de solidarité et de partage. Et je crois que tes chroniques l'ont beaucoup incarné. Est-ce que tu peux nous dire un peu la genèse de ces chroniques sur LinkedIn?
Oui, c'est exactement le Covid, effectivement. C'est les applaudissements pour les soignants à 20h. Puisqu'effectivement, il y a, comme tu l'as dit, il y a des choses qui étaient positives, effectivement, dans cette période, qui étaient loin d'être rigolotes, par ailleurs. Mais effectivement, le fait que des gens s'impliquent, travaillent beaucoup, parfois prennent des risques, ça a été le cas des soignants, des premières lignes, de façon générale. On l'a déjà oublié, hein. On savait qu'on l'oublierait assez vite d'ailleurs. Et les applaudissements à 20h, c'était assez impressionnant. Et moi, je me souviens, en tout cas à Paris, effectivement, d'avoir été scotché par. C'est rare en fait, des moments en fait. On y reviendra peut-être. Et je crois que la culture et l'art aussi, permet d'avoir des moments où on est ensemble. Et il y avait ce moment, effectivement, sur les balcons à Paris, où à 20h, on remerciait, on faisait du bruit, on applaudissait pour remercier les soignants. Et avec des amis, on faisait, comme beaucoup à l'époque, parfois des petits apéros en visio. On découvrait le monde fabuleux de la visio.
Je me souviens.
Pour certains. Et avec des amis, on se disait, mais comment on peut faire pour, après ce confinement, essayer de contribuer à ce qu'on parle toujours un peu des personnes qui font des choses extraordinaires comme les soignants. Donc on savait que ça allait pas durer les applaudissements et évidemment ça s'est vérifié. Et à côté de ça, effectivement, sur les réseaux, Sophia me contredira pas, il y a aussi beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence, des gens qui simplement insulte ou agresse parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec eux. Et il faut continuer à côté de ça à dénoncer ce qui ne va pas. Et à la fois dénoncer tout et n'importe quoi juste parce que on est rempli de colère, ça ne va pas. Et donc à ces gens-là, on avait envie de leur dire, écoute, détends-toi un peu et dénonce plutôt tes héros ou tes héroïnes. Tu verras, ça te fera du bien et ça nous fera du bien à toutes et tous.
Oui, et c'est vrai que se remettre un peu dans cette période du Covid, c'est moi j'ai plutôt souvenir que finalement là où l'individualité dominait beaucoup, cette période du Covid a quand même sur certains aspects fait la démonstration que l'humain reste un être grégaire et il est capable aussi de pouvoir s'organiser pour le bien de la collectivité. Moi j'ai un souvenir émouvant d'enfants qui applaudissaient sur les Hauts-de-Saint-Prix, dans le château de Bois-Renard, là, le gros établissement, ils applaudissaient à 20h les soignants qui étaient en pleine situation, je reprends les termes de Macron qui sont contestés, de guerre, de situation de guerre, où les hôpitaux étaient complètement engorgés, etc. Et les enfants applaudissaient à ce moment-là sur la grande terrasse, on voit tout le panorama de toute la vallée de l'Oise, du Val d'Oise, Aubonne, etc. Enfin, c'était exceptionnellement émouvant. Sophia, quel souvenir tu as de cette période-là où Nicolas s'est mis à parce que je crois que tu l'as aussi découvert, où il s'est mis à lancer un petit peu cet engagement collectif de pouvoir dénoncer ses héros. Et je me souviens que chacun venait parler de tel médecin, de tel. Ça a été beaucoup les soignants au départ. Et puis ensuite, ça a été les acteurs associatifs, parfois des anonymes. Nico a beaucoup mis en avant des anonymes aussi, et ça c'est
mais on lui vient les invisibles de la société, effectivement.
Exactement. Ouais. Et toi, tu as découvert ça, et je crois que tu as aussi décidé de mettre en avant aussi des figures de l'histoire à travers tes posts. Et si tu peux nous en dire un peu plus.
Oui, alors moi j'ai voulu mettre en avant les héroïnes différemment de l'histoire de France, mais aussi de celle du Maroc, puisque je suis d'origine marocaine. Et moi, je pense, en fait, il y a cette phrase de Clémenceau qui disait « L'histoire ne se répète pas, elle bégaye ». Et on le voit malheureusement qu'en 2025, c'est toujours d'actualité.
Cette phrase m'inquiète énormément.
Elle bégaye. Et justement, si j'ai voulu devenir historienne, en grande partie, je le dois à Marc Bloch, avec son étrange défaite, où il explique comment on a été un peu lâche lors de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on avait bien vu l'arrivée en fait de l'antisémitisme, de Hitler, de toute cette montée de la haine. Et je suis assez triste de constater qu'en France, en 2025, il se passe encore des choses, parce que je le rappelle très souvent, mais notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Et cette concordance, en fait, moi, j'y tiens énormément. Et j'ai voulu mettre en avant cette manière un peu plus ludique, sans être pompeuse, entre guillemets, d'histoire de l'art, parce que je pense qu'on peut s'appeler Sophia et écrire sur Blanche de Castille, Moulay Ismaïl, Anne de Bretagne. Je dis toujours avec beaucoup d'humour que je suis une historienne sans code barre, sans débris d'orientalisme, sans être dans un rayon carrefour. Et voilà, donc jouer sur l'histoire de l'art et mettre en avant pour donner l'envie. Et je reçois énormément de messages de jeunes qui me disent « grâce à vous, j'ai envie de lire ». Il n'y a pas seulement Stéphane Bern, même si je l'apprécie beaucoup. Voilà, donc de manière plus ludique et puis peut-être parler parce que je suis moi-même issue de la banlieue.
On va marquer une pause musicale et on reprend dans quelques minutes.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère.
Moi, es-tu heureux?
Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour. J'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que
J'aurais voulu être un artiste.
IDFM 98FM.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio avec Sophia. Alors Sophia, tout à l'heure tu parlais du bégaiement, de l'histoire bégaye. Et c'est vrai que je disais qu'elle m'angoissait un petit peu cette histoire-là. Pourquoi ? Parce que cette histoire de bégaiement, pourquoi ? Parce que je me dis, j'essaye d'avoir toujours le bon soupçon et je me dis que oui, il s'est passé des choses avant la guerre de 39-45, mais je me dis qu'aujourd'hui, on a conscience de ce qui s'y est passé. On est instruit, on a regardé l'histoire en face, on l'a étudié très jeune. L'éducation nationale a participé activement à garder cette mémoire-là. Et je reste, peut-être naïvement, mais je reste optimiste en me disant que ça ne peut pas se reproduire. Est-ce que tu dirais que je suis naïf ? Ou est-ce que tu dirais que j'ai raison d'être optimiste ?
Alors, j'ai envie de te dire middle. Parce que j'ai envie d'être optimiste, je suis comme toi. Mais je pense que l'histoire est un éternel recommencement, en fait, et que malheureusement, on a cette mémoire sélective. C'est ce que disait, pour faire corrélation avec Nicolas, sur aujourd'hui, bah, les infirmiers, c'est quelque chose qui me parle, parce que j'ai l'une de mes sœurs qui est infirmière, qui a aussi beaucoup souffert avec le monde hospitalier de cette fracture en fait de la société, puisqu'ils nous ont quand même aidés, ils ont été là, etc. Et pour faire corrélation avec ce que tu disais, je dirais que malheureusement, je pense en fait que j'essaye toujours d'être optimiste, mais je ne suis pas très très optimiste pour l'avenir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont sociopolitiques, il y a un climat anxiogène, il y a cette déchirure, cette fracture de la société, une société polarisée en fait. Maintenant, il n'y a plus de nuances. Nietzsche disait « malheur à moi parce que je suis une nuance » et je pense que c'est vraiment ça. Ce qui m'inquiète énormément, c'est le pouvoir des fake news. Je pense, après c'est mon avis personnel, que l'intelligence artificielle a ses bons et ses mauvais côtés. Je pense que les fake news, en fait, maintenant, et notamment pour vous les journalistes, c'est que maintenant on va passer plus de temps à lutter contre une fausse information que véhiculer une vraie. Et il y a un très bon film d'ailleurs, mais que je recommande à toutes les personnes, c'est L'Homme de la Cave, avec François Cluzet, parce que ça raconte vraiment le pouvoir des fake news venant aussi de personnes lettrées. Je ne pardonne pas aux intellectuels de véhiculer en fait des fake news. Je ne comprends pas en fait la théorie de l'historien qui raconte des choses mensongères, notamment sur l'histoire. Donc voilà, après c'est mon a priori, enfin c'est ma tribune personnelle, mais je... Quand je vois en tout cas ce qui se passe...
L'histoire invite à de la rigueur scientifique aussi.
Tout à fait. Tout à fait, mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est ce climat, si tu veux, complètement anxiogène. La société est complètement polarisée. Maintenant, tu dois choisir, c'est noir ou c'est blanc. Non, j'aime le gris, j'aime les zones d'ombre, j'aime la zone grise. Je pense que, comme X-Files, la vérité est aussi parfois ailleurs. Donc voilà. Et c'est pour cela, justement, que j'écris, que j'essaye de clarifier des choses, de donner l'envie pour ouvrir un livre. Rien n'est plus beau que le savoir, ça élève. Et moi, je suis convaincue que la beauté sauvera le monde. C'est peut-être un peu naïf de penser cela, mais...
Je ne sais pas si c'est naïf, mais c'est ton mantra.
Oui.
Souvent, tu en parles dans tes posts. Beaucoup. Tu parles beaucoup de la beauté qui sauvera le monde. Et la beauté, tu fais référence évidemment à l'art.
Tout à fait.
Et l'art est une beauté qui est décryptée chacun lorsqu'on l'observe à sa façon. Et ça reste très intime aussi. Moi, quand je me balade au musée du Louvre et que je vois des œuvres, eh bien, elles vont générer chez moi des émotions qui seront très différentes sûrement de mon voisin. D'ailleurs, ça a amené à beaucoup de conversations lorsque j'y allais avec des amis, etc. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que l'art nous amène parfois de l'apaisement, du réconfort, mais nous amène aussi parfois durement à certaines réalités. J'évoquais tout à l'heure Picasso, Guernica.
Guernica,
c'est une toile qui vient rappeler quand même ce qu'a été l'Espagne pendant une période, etc. Mmh. Et cette violence qui peut que l'être humain peut produire.
Oui,
voilà. Et ça. Il n'y a que l'histoire pour savoir le faire et l'inscrire pour l'éternité.
Bien sûr.
Et c'est vrai que tu y participes activement et je découvre aussi en lisant tes posts énormément de choses. J'apprends
c'est
aussi en te lisant, je découvre des personnages historiques qui peuvent marquer. Je vous invite tous à aller sur les posts de les chroniques de. Elle est très productive d'ailleurs, Sophia. Hein, c'est Sophia Azouz, c'est ça, hein, sur LinkedIn.
Ben Mansour,
Azouz, et du coup, voilà, vous la retrouverez, facile à trouver, et avec des chroniques super intéressantes. On revient après, Sophia, sur ton parcours aussi. Tu parlais tout à l'heure du Maroc, on y reviendra tout à l'heure, et
avec
tu parlais
plaisir.
De Meknès, une ville que je connais bien, et une ville hautement historique. Voilà. Alors, Nicolas, tu as, je le disais tout à l'heure, un parcours quand même assez exceptionnel. Très jeune, je crois que tu as démarré dans l'engagement solidaire et tu t'es toujours intéressé à l'être humain et à le plus vulnérable, d'ailleurs les plus vulnérables, et tu t'es toujours intéressé à jouer un rôle dans ce monde qui soit le plus utile possible. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment est-ce qu'il a démarré? Comment t'en es arrivé à travailler avec Jean-Marc Borrello, qu'on va recevoir prochainement sur une de nos émissions? Et comment t'es arrivé à rejoindre cette aventure associative? Peut-être pas au début sur l'associatif. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Alors, Nicolas, c'est un exercice qui, je suis sûr, doit être terrible pour toi, de parler de toi, parce que t'as beaucoup parlé des autres, mais peut-être que sur cette émission, tu peux t'autoriser à parler de toi et de ton parcours.
Oui, mais de toute façon, je pense qu'il faut le faire aussi, et effectivement, je crois beaucoup en l'incarnation, donc je crois qu'aujourd'hui, on a besoin justement de personnes qui incarnent des valeurs, des principes qui ferait du bien à notre société. Donc je vais pas me défiler. C'est vrai que j'essaye justement depuis longtemps maintenant d'incarner. Personne n'est parfait, mais en tout cas, ça donne du sens à ma vie, le fait d'essayer d'incarner. Je crois que c'est Gandhi qui disait « Sois le monde que tu veux voir demain ». Donc essayer de représenter à son niveau effectivement ce monde qu'on aimerait voir autour de soi. Et je crois beaucoup en ça, c'est-à-dire on parle beaucoup de l'individu, de l'individualisme, et l'individu, bah, il existe, hein. On est nombreux aujourd'hui sur Terre, et la question, je trouve, qui m'habite, c'est quel est le sens à tout ça? Et moi, je suis juriste de formation, j'ai fait 5 ans de droit, et en étant un peu sans bien savoir où j'allais, comme beaucoup de gens qui vont en droit, ça a été une formation extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'en parle beaucoup en ce moment, parce qu'on est dans une période un peu complexe, et en général, dans les périodes un peu complexes, ce souvenir me revient. Et à la fac de droit, et ça va un peu répondre à ta question, il y avait en deuxième ou troisième année un forum des métiers. Enfin voilà, il y a des entreprises ou des avocats qui venaient expliquer aux étudiants ce qu'ils pourraient faire après leurs études. On pouvait passer des entretiens, on pouvait s'informer, poser des questions à ces professionnels du droit. Et il y avait une graphologue. Bon, je sais pas ce que font les graphologues aujourd'hui. C'est plus difficile, sans doute, parce qu'on écrit plus beaucoup avec nos mains. Mais à l'époque, alors est-ce que c'était bien ou pas, j'en sais rien, mais les recruteurs faisaient souvent appel aux graphologues, sans doute qu'il y avait du bon et du moins bon, comme toutes ces choses-là. Mais en tout cas, on pouvait passer un petit moment avec une graphologue, écrire 2-3 lignes, et elle allait nous dire en fait ce que les recruteurs penseraient de notre écriture manuscrite. Et donc ce moment se transforme en quelque chose d'assez étonnant, puisque je lui tends un papier sur lequel j'ai écrit 2-3 lignes. Elle regarde, ça dure 2-3 minutes, hein. Elle regarde, elle me regarde, elle regarde ce que j'ai écrit, elle me regarde, elle regarde ce que j'ai écrit. Donc le temps passe lentement, et à un moment elle me fixe et elle me dit c'est difficile, la vie. Et elle enchaîne, elle me dit, mais vous savez, c'est difficile pour tout le monde, pas que pour vous. Et elle enchaîne en me disant, on est sur ce grand caillou, la Terre, on sait pas d'où on vient, on sait pas où on va, mais vous savez, c'est pour tout le monde pareil. Et ça m'a fait du bien, et je pense que ce je sais pas si c'est fondateur, en tout cas pour moi, mais en tout cas, je pense que j'avais besoin d'avoir une discussion à un moment donné, d'humain à humain. Sur le sens de la vie. Ouais, effectivement, on est là, c'est quand même pas hyper facile, la vie. Alors on peut dire que la vie est belle, et par certains aspects elle est très belle, mais elle est dure, et il y a des gens pour qui c'est très très dur, et je pense qu'à un moment donné c'est toujours mieux de regarder les choses en face. Et je crois qu'aujourd'hui la question, et je pense que c'est quelque chose qui m'habite effectivement depuis ce temps-là, c'est quoi effectivement réussir sa vie, qu'est-ce qu'on fait pour les autres, pour soi. Enfin, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas ce sujet-là a toujours été présent pour moi. Et après, il a bien fallu travailler. Donc j'ai commencé ma carrière dans une grande compagnie d'assurance, et puis après j'ai rencontré le secteur associatif par hasard. Mais en tout cas, ça a toujours été là. Et je pense effectivement que la question aujourd'hui qu'on devrait tous se poser, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce que ça veut dire que réussir sa vie? On est tous effectivement des individus. On a tous envie quelque part aussi d'être dans une situation avec un peu de confort et tout ça, mais on voit bien qu'à partir d'une certaine limite, ça suffit pas. Donc moi, je crois beaucoup à la réussite de l'individu, mais par une forme de réussite collective. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de défendre depuis souvent, je sais plus quand, mais on parlait des réseaux sociaux et de LinkedIn par exemple, effectivement, où on peut effectivement avoir ce type de discussion, de conversation. Et je me suis aperçu effectivement que l'incarnation, pour revenir sur le début de ma réponse, que l'incarnation, c'est avec l'incarnation qu'on pouvait éventuellement changer les choses. Parce que toujours dire voilà ce qu'on peut faire pour changer, pour plus de solidarité, pour plus de respect de l'environnement, c'est quand même un sujet aussi aujourd'hui. Mais quand c'est pas incarné, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc Hein, il y a quelques années, je me suis dit, comment on peut être utile simplement quand on est en capacité de le faire? On peut donner son sang. L'établissement, par exemple, l'établissement français du sang dit que quand on donne son sang, on sauve 3 vies. Ce qui est pas mal. Et donc, j'ai commencé aussi, en parallèle de mes portraits sur les héros et héroïnes du quotidien, à mettre ma tronche sur les réseaux, sur LinkedIn, en train de donner mon sang. Et ça fait partie de cette conviction que j'ai aujourd'hui qu'effectivement, il faut être capable de dire qu'on fait des choses positives et même de le clamer haut et fort. Et c'est pas évident. Et c'est ça aussi un peu qu'il y a derrière cette initiative autour des héros et héroïnes du quotidien. C'est quasiment un peu les obliger à sortir du bois en leur disant, si on ne parle dans notre société que de ceux qui détruisent, qui agressent, qui attisent la haine, il y en a quand même pas mal aujourd'hui, on va pas s'en sortir. Donc il faut que celles et ceux et j'avais jusqu'à peu de temps eu du mal à utiliser ces expressions, ce type d'expression, mais je pense qu'à un moment donné, c'est ça en fait, c'est faire le bien. Donc il faut qu'à un moment donné, celles et ceux qui décident de faire le bien, on peut décider de faire le bien, on peut décider de faire le mal, on peut décider de s'en foutre. Et c'est là où je reviens à la responsabilité individuelle. C'est qu'à un moment donné, on a tous le choix. Quelque part, certains plus que d'autres. Évidemment, quand on est à la rue, c'est compliqué. Par contre, quand on gagne correctement sa vie, voire très bien sa vie, et c'est le cas pour un certain nombre de personnes aujourd'hui en France, par exemple, je pense que, comme le disait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il faut en revenir à des trucs parfois un peu basiques. Et la culture, même là, si c'est une autre forme de culture, la culture transmet des messages qui peuvent être, je pense, utiles aujourd'hui. Donc je crois beaucoup en cette responsabilité individuelle. Et effectivement, quand j'ai commencé à en me disant, je sais pas très bien ce que ça va donner, mais en me disant, par exemple, je vais raconter que je donne mon sang. Et quand on commence à voir des gens qui vous envoient des messages en vous disant, c'est vrai, j'y pensais pas, ou je me disais que j'allais le faire, et puis je me disais toujours, on verra un jour, et donc le fait d'avoir quelqu'un qui dit je l'ai fait, enfin c'est pas très compliqué, ça pique une seconde, et quand on est en capacité de le faire, faut pas culpabiliser ceux qui sont pas en capacité de le faire, mais quand on peut le faire, c'est pas très très compliqué, et je trouve que symboliquement donner son sang, enfin ça raconte quelque chose. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les politiques ne font jamais ça. Enfin, c'est un truc où en fait on ressent, pour des gens comme moi qui travaillent et s'engagent depuis plus de 20 ans effectivement dans ces sujet-là, qu'on finit par ne pas comprendre pourquoi ces thèmes qui sont portés, parfois portés avec courage, avec abnégation, les sujets de solidarité, par des gens qui aujourd'hui s'épuisent en plus parce que le contexte est compliqué, que les financements baissent. Je parle pas forcément du don du sang là, mais de façon générale de ces questions d'engagement et de solidarité, qu'on finit par se dire mais pourquoi on est jamais aidé par ceux qui doivent et celles à un moment donné qui doivent montrer l'exemple. Et donc et peut-être que ça s'est fait d'ailleurs au niveau local, mais c'est vrai qu'au niveau national on voit peu ce type d'initiative, et que je crois qu'à un moment donné ça passe justement par ça, c'est-à-dire un nouveau discours, des nouveaux codes, des nouveaux imaginaires où tout le monde, y compris les plus puissants, justement, montre ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est s'engager, c'est être dans la solidarité, c'est tendre la main, c'est essayer d'être respectueux sur les questions environnementales, parce que ça va finir par être catastrophique si on le fait pas. C'est un peu tout ça. Voilà. Et c'est aussi de la culture, ça c'est aussi de l'art, et les artistes, notamment pendant le premier confinement dont on parlait. Et peut-être que d'ailleurs, mon imaginaire autour des héros et héroïnes du quotidien vient de là, parce que beaucoup de soignants étaient représentés parfois par des artistes comme des héros. Alors il faut faire attention, oui. On me le dit parfois, parce que c'est vrai qu'à force de dire ce sont des héros, si c'est des héros, ils font pas ça pour le salaire, ils ont pas besoin de conditions de travail satisfaisantes, puisque de toute façon c'est des héros, et donc ils peuvent faire des choses extraordinaires avec très peu. Donc ça, il faut faire attention de pas aller là-dedans. Mais en dehors de ça, dire que les gens qui s'engagent, qui font des choses extraordinaires pour les autres, pour le respect de l'humain, pour le respect de l'environnement, que ce sont aujourd'hui des héros et des héroïnes du quotidien, oui, je crois qu'il faut le dire.
Oui, et pour peut-être compléter ce que tu dis, beaucoup d'auditeurs nous écoutent et sont peut-être dans leur voiture ou dans leur salon et font un métier où peut-être ils ne trouvent pas le sens qu'ils souhaitent. J'ai eu beaucoup de témoignages de cette nature. Je crois que on peut trouver aussi du sens en ayant une activité bénévole à côté de son métier. Et beaucoup de chefs d'entreprise, l'expérience que j'ai moi, c'est des chefs d'entreprise qui pouvaient me dire, et je salue Nico, je salue Sidi qui m'écoute sûrement, qui sont des chefs d'entreprise et qui ont pu me dire que ils avaient besoin de se rendre utile en dehors de leur environnement de travail pour pouvoir être bénévole dans une ou rendre service ou appuyer une cause. Ils ont choisi pour ces deux-là, que je salue au passage, la protection de l'enfance, mais ça peut être l'insertion, ça peut être le scolaire, ça peut être le soin, etc. Enfin, tout le monde peut aujourd'hui devenir bénévole dans une association de son choix. Et c'est vrai que les associations aujourd'hui souffrent de deux choses. D'abord d'un manque de moyens criants, mais aussi d'une forme de reconnaissance. On a l'impression que ces moyens ne sont plus accordés parce qu'on considérait que finalement, bah, c'est plus très utile la solidarité, etc. Comme si on n'avait plus besoin, on pouvait s'en passer finalement dans notre société, ce qui est absolument faux. Et pour le comprendre, il faut venir crapahuter aux côtés de ces associations pour mieux les comprendre. Et tu parlais tout à l'heure d'exemples. Oui, c'est un excellent exemple, celui de donner son sang, et que les politiques devraient s'en inspirer, et je l'espère, pour certains le font, mais ils pourraient aussi être intéressés d'aller passer une journée dans une association aux côtés de gens de terrain qui sont au plus près des publics dont ils ont la charge pour pouvoir mesurer ce qu'est l'impact de ce travail-là auprès de ce public vulnérable. Et comment est-ce qu'ils peuvent aussi en tirer des conclusions et de se dire, oui, ces associations ont besoin de plus de moyens. Il y a beaucoup d'associations sur le département du Val-d'Oise que je connais bien. Je parle du Val-d'Oise, mais j'en connais aussi sur d'autres départements, comme le 93, mais aussi sur le Val-d'Oise, je citerai Espéré 95, qui fait un travail incroyable auprès des publics autour de l'agglomération de Cergy, mais pas que. L'ARS 95, je salue Géraldine Blin, qui est la présidente, qui fait un travail énorme sur le Val-d'Oise. Image, je salue aussi Bruno Dumas, qui en est le directeur général et qui fait un travail incroyable autour de l'insertion du côté de l'Est du département. Ces associations ont besoin de pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions, et ça, c'est indispensable. Merci Nico de rappeler à quel point ton engagement est altruiste, et il s'intéresse aussi à pérenniser aussi les actions associatives notamment et bénévoles, parce que lorsque tu donnes ton sang, tu le donnes de manière complètement consciente. Tu disais une prise de sang, ça sauve trois vies, c'est ça?
Altruisme, sans doute, mais aussi, enfin, je pense que ce qui est important, et ce qu'il faudrait que les gens s'en rendent compte, c'est qu'on y trouve aussi du plaisir dans le fait de s'engager. Et voilà, et je pense que ça me rend heureux quelque part, le fait de. Et puis, enfin, je suis pas non plus toutes les secondes de ma vie en train de m'engager, mais c'est vrai que de façon globale, c'est quand même quelque chose qui est central dans ma vie. Mais c'est aussi parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir, que ça me permet de trouver du sens. On a tous besoin de trouver du sens. On voit bien à quel point dans notre société aujourd'hui il y a ce besoin de sens au travail et ailleurs, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas bien, qui sont malheureux. Donc et je pense que on a un besoin en fait de spiritualité, d'ailleurs, auquel encore une fois l'art aussi fait écho, hein. Et malheureusement dans nos sociétés dans lesquelles les religions sont moins présentes. Non, je suis plutôt athée, donc je vais pas regretter les religions, mais en tout cas je trouve que les religions, il y a pas forcément eu le travail n'a pas été suffisant, on va dire ça comme ça, de la part de l'État ou de la République, alors qu'il y a des choses extraordinaires. Enfin, tu le disais, Sophia, tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité, c'est magnifique. Et il y a plein de choses derrière ça, derrière la Révolution française, derrière la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, Et malheureusement, c'est quelque chose qui est peu présent, je trouve, alors que cet héritage est extraordinaire et qu'on devrait l'interroger pour se demander comment on peut l'actualiser et permettre en sorte qu'il soit toujours vivant et de plus en plus vivant même. Et ça, c'est une forme de spiritualité républicaine, laïque, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui, à mon avis, devra revenir, se développer, être partagée, être discutée entre citoyens, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ça manque et que, en fait, s'il n'y a pas de spiritualité, quel est justement sur ce grand caillou qu'évoquait la graphologue dont je vous parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fout là, quoi à quoi ça sert? Alors qu'il y a plein de choses extraordinaires à imaginer. Le fait d'être ensemble, de créer des projets pour que les personnes qui sont exclues dans notre société ne le soient plus. Enfin, je trouve que c'est des choses qui... Et d'ailleurs, les gens, Assad, tu le sais, qui travaillent dans ces secteurs de l'action sociale de façon générale, même si c'est pas toujours facile, même si les salaires sont pas toujours suffisants, même si les conditions sont parfois difficiles, c'est des gens qui globalement vont bien, en tout cas qui sont bien dans leur basket. Moi, ça fait 25 ans que j'en croise. C'est des gens qui vont bien globalement, parce qu'ils savent à quoi sert le temps qui passe dans la journée, tous les jours, dans leur travail. Donc voilà, moi j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas collectivement à parler plus de ces sujets, parce que je pense effectivement que bon nombre de nos concitoyens auraient besoin de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup la consommation, le consumérisme qui a pris cette place. Et on tourne en rond. Et on voit bien que ça remplit pas une vie, la consommation. Avec en plus toutes les conséquences que ça a sur le climat et l'environnement.
Nicolas vient de lancer un concept, la spiritualité républicaine. Et pourquoi pas lancer un mouvement, Nicolas, là-dessus, sur le modèle des fresques du climat, des fresqueurs, mais sur la spiritualité républicaine.
Forcément, des gens qui ont écrit là-dessus.
Sûrement, mais c'est vrai que je te rejoins, Sophia, sûrement.
C'est un bon concept.
Oui, il y a besoin peut-être de discuter de tout ça, d'organiser peut-être les gens pour parler de tout ça, parce que vous l'avez deviné, je suis plutôt optimiste et j'ai envie d'être optimiste, mais je crois qu'effectivement on a de belles valeurs, liberté, égalité, fraternité. Derrière, il y a énormément de possibles qui s'offrent à nous. Est-ce que aujourd'hui, ce qu'on voit parfois dans les politiques, notamment à l'échelle gouvernementale, qui est parfois assez pathétique quand même dans leurs conflits partisans, etc. Est-ce que ils n'oublient pas finalement que il y a une sorte de cohésion à aller chercher du côté de la nation? Est-ce qu'ils l'ont oublié? Est-ce qu'ils ont la tête dans le guidon et ne la voient plus? Est-ce que c'est peut-être la cause aussi de cette fracture dans la société et qui aujourd'hui échappe, les raisons peuvent échapper peut-être aux politiques, et peut-être que finalement, Nicolas, l'antidote, c'est peut-être ça, aller peut-être organiser les gens pour pouvoir rediscuter ou partager sur des valeurs, sur des causes du quotidien, du réel de chaque individu, d'essayer de comprendre de quoi on a besoin, les besoins primaires et puis les besoins aussi de faire société. Comment est-ce que tout ça s'articule? Oui, Nicolas, c'est je te rejoins parfaitement. Aujourd'hui, le secteur associatif est plutôt aligné sur ce que tu dis et essaye de le faire à leur échelle. Et je pense que le relais doit être pris aussi à d'autres niveaux. Mais aujourd'hui, on voit bien que la politique, c'est compliqué à l'échelle du gouvernement. On a encore des élus sur le terrain, sur le territoire, qui sont engagés, militants, qui rejoignent ces positions aussi et qui cherchent en permanence à essayer de rassembler. Et cela, à l'échelle locale, on arrive quand même à avoir des interlocuteurs conscients.
Mais l'avenir se passe sans doute par le local et la proximité, hein, parce qu'effectivement, au niveau local, effectivement, on voit souvent des élus, notamment dans les territoires ruraux, les petites villes ou en banlieue, enfin, qui font des choses, qui s'engagent de façon extraordinaire. Et par rapport au sujet des héros et héroïnes du quotidien, en tout cas du secteur associatif ou de celles et ceux qui s'engagent en tout cas au quotidien pour rendre ce monde un peu meilleur, on s'aperçoit que c'est la presse régionale qui en parle la presse nationale, jamais ou quasiment jamais. C'est vrai. Mais qu'en tout cas, la presse locale, régionale, a parfois raconté des belles histoires de soignants, de travailleurs sociaux, de quelqu'un qui a sauvé une autre personne. J'ai raconté une histoire il y a pas longtemps là, et ça arrive très souvent en fait. Quelqu'un qui s'arrête sur l'autoroute, il y a un camion en feu, il va extraire le chauffeur de la cabine. Enfin, il y a plein de gens en fait qui tous les jours, parfois même risquent leur vie. Alors je sais pas si ça doit être le modèle, mais enfin en tout cas, c'est bien de dire qu'il y a aussi des gens en fait en France et ailleurs qui parfois s'engagent tellement qu'ils risquent leur vie pour d'autres personnes. Enfin, et ça, dans nos médias nationaux, effectivement, on n'en parle jamais.
On va marquer une petite pause et on reprend après une pause musicale avec Sophia.
Wind blown, honeymoon is at last alone. Feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you give to me. And on it will always be. True love, true love. For you and I have a guardian angel on high, with nothing to do but to give to you as you keep to me. Love forever, true. Love forever, true.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Nous revoilà sur les voies de l'engagement sur IDFM Radio, l'émission qui parle du secteur associatif, des gens engagés et militants. Et on a aujourd'hui à nos côtés Nicolas Froissart et Sophia Azouz, qui est historienne de l'art. Sophia, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu comme l'a fait Nicolas, nous parler un peu de ton parcours tu nous parlais tout à l'heure du Maroc. Est-ce que ça a commencé par le Maroc, peut-être ? Tu nous as parlé de Meknès, que je connais bien.
Hein, nous sommes de la même ville.
Voilà, exactement. Et Meknès est une ville incroyable, oui. Avec Volubilis, les ruines romaines.
Tout à fait. Qui sont, Moulay Rachid aussi.
Et Moulay Rachid, et puis Moulay Ismail aussi.
Tout à fait.
Voilà. Et est-ce que tu peux nous en parler ? Et notamment, alors moi, il y a une séquence dont tu me parlais tout à l'heure, juste avant l'émission, c'est celle de cette forme de rivalité entre Moulay Ismail et Louis XIV. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, tout à fait. En fait, Meknès était la capitale du Maroc jusqu'au protectorat. Et d'ailleurs, c'est le maréchal Lyautey qui a remis les Alaouites au pouvoir, 44 ans de protectorat français. Et il y a une très très belle histoire de Moulay Ismail, qui était le sultan le plus puissant d'Afrique. Et on le considérait encore aujourd'hui comme le Louis XIV marocain. Parce qu'on disait en fait qu'il voulait construire un Versailles. Et c'est vrai que quand on va à Meknès, qui est un peu pour moi la ville impériale oubliée, parce qu'au Maroc, il y a 4 villes impériales. Il y a Fès, Meknès, Rabat et Marrakech. Et moi, je me bats aussi à titre individuel pour qu'Essaouira soit reconnue comme la 5e ville. Parce que c'est vrai que Mogador est quand même un héritage incroyable du style, en fait, si tu veux, andalou, et puis aussi l'histoire des corsaires portugais qui ont construit en grande partie Essaouira. Et donc Meknès était vraiment considéré comme la ville impériale, la capitale du Maroc. Et effectivement, Moulay Ismail a entretenu une correspondance très diplomatique avec Louis XIV, qu'il considérait comme son égal. Donc il parlait d'égal à égal, et c'est très rare parce que Louis XIV considérait comme c'était le roi soleil, et qu'il considérait que le soleil tournait autour de lui. Même sa mort est quand même quelque chose d'incroyable, parce que on oublie, mais il y a eu une très très belle expo en 2015 au château de Versailles, il y a 10 ans, sur la mort de Louis XIV. Et Louis XIV a voulu mourir devant le soleil. Donc on avait placé son lit pour la petite Madeleine de Proust, son lit en face du soleil. Voilà, comme un crépuscule du roi soleil qui monte en parapente vers son symbole. Et donc Moulay Ismaïl, pour l'histoire très drôle, a entretenu une correspondance avec Louis XIV et voulait épouser la princesse de Conti, qui était l'une des nombreuses bâtardes de Louis XIV. Le seul problème, c'est qu'elle ne voulait pas se convertir à l'islam. Bon, déjà, Louis XIV avait un problème avec les protestants. Donc tu penses bien qu'avec avec l'islam, tout simplement, c'était très compliqué. Et donc, du coup, ils se sont un peu fâchés, mais ils ont toujours gardé cette proximité, cette entente individuelle entre rois, très, très respectueuse. Et il y a même le diplomate, effectivement, de Moulay Ismaïl, qui s'est rendu, d'ailleurs, au château des Ducs de Bretagne, pour demander officiellement la princesse de Conti. Voilà, donc ça, c'est un peu une histoire un peu qui est tombée un peu dans l'oubli. Et effectivement, j'ai grandi à Meknès avant d'arriver en fait en France, et je me suis toujours promise un jour d'écrire un livre sur Meknès. Le rêve oublié en fait de Moulay Ismaïl, parce qu'il a construit des murailles, comme on était très 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 souvent envahis par les Portugais et les Espagnols, mais aussi les Anglais, je pense à El Jadida. Comme le Maroc était un port stratégique, mais Meknès étant la capitale, c'était symbolique en fait pour eux d'envahir la ville impériale. Et du coup, tu as rappelé à juste titre Volubilis, qui est en fait l'héritage des Phéniciens, un site incroyable qui est tombé en ruine mais qui a été reconstruit grâce à un riche collectionneur français qui était complètement féru et amoureux de Volubilis. Et aussi Moulay Rachid, puisque j'aime beaucoup cette citadelle à ciel ouvert qui est à peu près à 10 km en fait de Volubilis, qui est considérée comme la ville de Lourdes marocaine. Voilà, il y a quelque chose de très spirituel au début, le commencement. Et donc, je tiens beaucoup à cette ville et Meknès, on l'appelle en fait la citadelle à ciel ouvert et le rêve éveillé de Moulay Ismaïl.
Alors, je parlais de tes chroniques tout à l'heure. Sophia, tu es connue beaucoup pour ça, pour pouvoir partager aussi des anecdotes de l'histoire, mais qui sont toujours ancrées dans une certaine forme d'actualité. Est-ce que tu peux réévoquer avec ceux qui ne te connaissent pas et qui nous écoutent, peut-être quelques chroniques que tu as pu écrire et qui t'ont inspiré à la faveur d'une actualité chaude? Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose?
Oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure de l'entraide. Moi, j'ai été un peu, j'ai grandi en fait. J'ai fait ma construction de jeune femme à en devenir avec trois modèles féminins que je cite très souvent dans mes chroniques. C'est Simone Veil, puisque la vie de Simone Veil est quand même romanesque et incroyable. Et je suis certaine que si elle était de l'époque de Victor Hugo ou de Maupassant ou de Flaubert, ils auraient tous écrit sur sa destinée incroyable. Et d'ailleurs, pour l'histoire de Simone Veil, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes l'ignorent. Mais elle a aussi été sauvée des camps en raison de sa beauté, qui est déjà une autre tragédie dans une grande tragédie. Et j'invite, en fait, à lire toutes les personnes qui s'intéressent à la vie de Simone Veil, sur Simone Veil et ses sœurs. D'ailleurs, ce sera l'un des sujets de mes prochaines chroniques, puisque Simone Veil, c'est aussi une tragédie personnelle. Les sœurs de Simone Veil, Simone, Denise et Madeleine, dites Milou. Et donc voilà, Gisèle Halimi, grande avocate, la plus irrespectueuse, mais je dirais aussi la plus irrévérencieuse, pardon, ouais. Merci. Et puis Louise Weiss, puisque on est aussi un peu hypocrite sur ce sujet, mais le droit de vote des femmes est quand même pas si lointain que ça. C'est quand même une acquisition qui nous a été faite par Louise Weiss.
66, le droit de vote des femmes, non? Ou 56, j'ai tout de suite.
Pas très loin. Ouais. Et en fait, Louise Veil, c'était l'amie de Léon Blum, une Européenne convaincue. Et en fait, voilà. Donc, et puis, je rajouterai aussi une dernière pour faire un quator, ce serait Hubertine Auclert, qui en fait a légalisé une chose incroyable et qu'on oublie très souvent, c'est le droit au divorce et aussi l'entrée des femmes dans la fonction publique. Puisque moi, je suis fonctionnaire d'État et je le dois et je le cite très souvent en partie à Hubertine Auclert. Donc j'essaye de faire corrélation. Récemment, j'ai écrit sur le J'accuse d'Émile Zola. Parce que quand on voit en fait cette poussée de l'antisémitisme en France, cette montée en fait de la peur d'autrui, on oublie très 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 souvent, mais Dreyfus a été gracié mais jamais innocenté en fait. Et puis plusieurs autres chroniques. Je pense que l'histoire, en fait, c'était ce que disait Marc Bloch, c'est un aller-retour entre le passé et le présent pour appréhender le futur.
Alors, le droit de vote des femmes, c'est 45. Ça a été en 44 par le Conseil provisoire de la résistance en 44 et 45 pour le premières élections pour le droit de vote des femmes.
Et puis Louise Weiss deviendra en fait la première présidente de l'Europe.
Première présidente de l'Europe.
De l'Europe, oui.
D'accord. Alors, Sophia, tu nous as fait voyager à Meknès, le Maroc. Tu as parlé d'Essaouira. Tu as parlé de Mogador. Et je voudrais m'arrêter deux secondes sur Mogador. Mogador, encore une fois, une histoire associative. Il y a une synagogue qui est une des plus anciennes du Maroc, qui a été complètement réhabilitée par une association locale marocaine, que je connais bien d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle là tout de suite.
Mais, non, mais t'as bien raison.
Qui a fait un travail incroyable pour réhabiliter cette synagogue qui est une part d'histoire. Et le Maroc s'est toujours un peu illustré dans sa diversité, son vivre ensemble entre les communautés chrétiennes.
Un brassage juives, encore, mais qui existe toujours en 2025. Oui.
C'est quand même assez extraordinaire. C'est un exemple assez unique, je crois, en Afrique du Nord.
En tout cas, dans le Maghreb aussi.
Est-ce que tu peux nous en parler ?
Ouais, c'est une très longue histoire. En fait, les Juifs marocains ont toujours été associés au Maroc et ils vénèrent toujours aussi le roi, puisque il y a cette triste anecdote quand le régime de Hitler a envahi l'Europe, il voulait aussi s'attaquer en fait aux Juifs du Maghreb. Donc, l'Algérie, on connaît. C'est une histoire beaucoup plus complexe, la Tunisie aussi, mais celle du Maroc, en fait, le régime de Vichy est venu à Tanger et a réclamé en fait au roi Mohamed V, justement, tous les Juifs marocains. Et il aurait dit cette fameuse phrase qui est très connue, c'est « Je ne connais pas de Juifs, je ne connais que des Marocains, ils sont mes sujets. Donc, si vous devez prendre les Juifs, vous commencez par moi. » Voilà, donc le roi du Maroc, Mohamed V, a toujours protégé les Juifs marocains et qui leur sont toujours reconnaissants. Et effectivement, quand on va justement à Casablanca, une ville que j'aime beaucoup, parce qu'elle n'est pas seulement le poumon économique du Maroc, c'est un brassage incroyable de trois religions qui coexistent toujours, la religion catholique, l'islam et le judaïsme.
Sophia, tu le disais tout à l'heure, tu évolues dans l'art, c'est ton métier. Comment tu vois les musées aujourd'hui ? Est-ce que c'est des espaces encore accessibles aux jeunes, j'allais dire, de milieux populaires, ou est-ce que ça reste un milieu fréquenté par des gens éclairés, instruits,
de l'élite,
etc. Je te dis ça pour une raison simple. Je vais, moi, dans les musées, j'y emmène mes enfants, etc. Quand je me balade, je vois autour de moi des gens éclairés qui savent pourquoi ils vont dans tel ou tel musée. Ils ciblent exactement, enfin, l'objectif, le but recherché, il est très clair, etc. Or, pour moi, un musée, c'est parce que je ne suis pas un historien de l'art et parce que je suis un amateur de l'art, mais vraiment à l'échelle zéro de l'amateurisme, je m'y intéresse. Mais je déambule dans les musées de manière instinctive. Je vais m'intéresser à une toile, pas forcément parce que je connais l'auteur, etc., ou une sculpture. J'aime beaucoup l'art contemporain parce qu'il est créatif, parce que il vous bouscule dans vos représentations, parfois même géométriques, etc. Enfin, et j'ai le sentiment parfois que les musées restent des espaces qui réservés à une certaine un certain élite peut-être, ou une certaine classe sociale. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que tu...
Non, c'est tout à fait vrai, puisque tout à mes débuts, parce qu'on va dire que maintenant, comme dirait le capitaine Haddock, parce que moi aussi j'ai des références, j'ai un peu de la bouteille, entre guillemets, j'ai... Je parle pas de discrimination. En fait, je pense qu'on est dans ce que disait Jean de La Fontaine, les petits jugements de cour. Ce que j'essaye en fait de dire, donc les musées, je défendrai toujours le patrimoine parce que pour moi c'est l'antre du beau, mais effectivement il y a encore cette image élitiste et c'est l'une des raisons pour laquelle j'écris que je suis autant obstinée en fait à dire qu'on peut s'appeler Mohamed, on peut s'appeler Kader, on peut s'appeler Yasmina, on peut s'appeler je ne sais plus quel autre prénom, de toute origine et de toute personne confondue, et dire en fait qu'on peut aimer justement Eugène Delacroix ou écrire sur Goya sans complexe, aimer Magritte, voilà. Mais effectivement, je pense que l'une des choses qui m'a le plus marquée, c'est donner l'envie. Et j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle aussi de faire de très belles rencontres, d'autres qui ont été plus déterminantes. Et moi, le destin en fait de Rose Valland, qui est une très belle histoire française, et je ne comprends même pas pourquoi on l'étudie pas ni au collège ni au lycée, puisqu'elle a été en fait celle qui a sauvé le Louvre avec Jaujard, qui était le directeur du Louvre sous l'occupation, et qui est en fait une historienne qui voulait devenir conservatrice et qui sera conservatrice à la Libération, justement par De Gaulle, parce qu'elle a en fait noté, comme Dora l'exploratrice, dans un petit bloc-notes, toutes les œuvres qui ont été spoliés par les nazis. Et à la Libération, on a retrouvé toutes les œuvres, en grande partie, on va dire à peu près trois quarts, justement, grâce à elle. Et elle était historienne de l'art au Jeu de Paume.
Alors, tu parles du Louvre. Forcément, je dois te parler de ce qui vient de se passer. On a tous été assommés par cette information, de savoir que des malfaiteurs, on peut pas les nommer autrement, qui se sont introduits au musée et qui ont ils ont ciblé quand même des pièces qui interrogent quand même, parce que ces pièces là touchent à l'histoire de France, la grande histoire de France.
Tout à fait, c'est les joyaux de la couronne, notamment de la princesse Eugénie. Et c'est tristement drôle, puisqu'il y a trois semaines, j'étais à Compiègne, où justement, il n'y a pas en fait les bijoux. C'était bien dans la galerie d'Apollon, les bijoux de l'impératrice Eugénie. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit aussi tout récemment encore à un journaliste, que pour moi, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont volé 68 millions de Français.
Ils ont volé 68 millions de Français, c'est très vrai. Et c'est une façon aussi de synthétiser un peu le drame.
C'est d'une valeur inestimable. C'est quelque chose de... On a tous été abasourdis, en tout cas dans le milieu de la culture. Et effectivement, ça a mis en tout cas en exergue les problèmes de sécurité effectivement dans les musées.
Alors Sophia, moi, ça m'a fait penser à autre chose, cette histoire. Et je vais essayer de m'expliquer. Tout à l'heure, j'évoquais la situation des associations qui sont en grande difficulté financière pour pouvoir exercer leur mission. Eh bien, un peu en miroir, j'ai le sentiment aussi que les musées aujourd'hui, eh bien, pareil, doivent sûrement être en... J'ai pas de chiffres tout de suite là pour sourcer ce que je te dis, mais j'ai le sentiment que l'art aussi, eh bien, est en perte de vitesse. Parce que, en manquant de reconnaissance, j'écoutais la directrice générale du musée du Louvre.
Laurence Descartes, madame Descartes. Laurence Descartes.
Je l'ai écoutée au Sénat. J'ai écouté toute son audition au Sénat, et j'étais frappé par ce qu'elle décrivait. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de changer un certain nombre de choses, mais il n'y avait pas elle n'était pas accompagnée. J'avais l'impression d'une femme qui marchait un peu seule. Et dans sa description, en tout cas, qui marchait un peu seule et sans être appuyée dans les moyens qu'elle voulait, avec un surtourisme et du coup une surfréquentation du Louvre qui se dégrade plus vite.
Le Louvre comme Versailles, d'ailleurs.
Et ça interroge à bien des égards. Ça interroge sur le tourisme de masse. Ça interroge sur... le respect de ses œuvres en termes de protection, etc. Et du coup, en même temps, le tourisme, il y a quelque chose d'un cercle un peu vicié, c'est-à-dire que le tourisme de masse permet d'avoir des fonds pour pouvoir peut-être renouveler et entretenir ces musées. Il y a quelque chose dans lequel on a l'impression que les musées sont enfermés, ou l'art est enfermé, et qui ne trouvent pas de modèle nouveau qui puisse un peu réhabiliter cette histoire-là. C'est vrai que le Louvre, pour y aller, c'est impressionnant. Déjà, pour avoir une place, c'est pas simple. Il y a des listes d'attente. Et quand on y arrive, eh bien, il y a une queue interminable pour, avant de rentrer dans le musée. C'est pas évident.
Tout à fait.
Et qu'est-ce que tu peux en dire, toi, Sophia?
C'est à titre personnel, mais moi je pense qu'on devrait faire comme le musée Van Gogh à Amsterdam, qui a souffert il y a plusieurs années en fait de surtourisme. Et moi, quand j'ai été à Amsterdam, maintenant en fait tu ne peux plus commander comme ça, c'est-à-dire venir sur place et prendre son ticket, tout comme la maison d'Anne Frank, il faut que tu prennes bien en avance. Moi, j'ai été l'année dernière et j'ai voulu partir au mois d'avril. Il n'y avait plus de place avant fin avril. Ils ont décidé de faire un quota tout simplement. Le Louvre Versailles sont victimes de surtourisme, surtout depuis le confinement. Le Louvre étant quand même le musée le plus visité au monde. Les bâtisses sont très anciennes, il y a je ne sais plus combien de salles, on ne peut pas tout surveiller. Donc effectivement, j'ai vu en grande partie l'audition de Madame Laurence Descartes qui raconte justement cette grande fragilité. C'est tout le système économique, comme tu disais. On est dans une époque où maintenant l'État n'a plus les moyens de tenir son propre budget. Il y a un contexte aussi international, politique, qui fait qu'on a besoin de se réarmer. Donc il y a une volonté aussi politique, effectivement, de peut-être tout organiser sur le ministère des Armées, puisque le contexte nous l'impose, entre guillemets. Et donc, Laurence Descartes n'a fait que soulever ma petite métaphore de ce que j'appelle le millefeuille. Il y a beaucoup d'autres couches derrière.
Oui, et puis on espère en tout cas que ces pièces d'art, hein, parce qu'on appelle ça des bijoux, moi je préfère appeler ça des pièces d'art et des témoins de l'histoire, soient retrouvés très vite.
Je l'espère aussi.
Voilà. Nicolas, on a parlé d'art, on a parlé d'association, on a parlé un peu de ton parcours. Aujourd'hui, je crois que tu es engagé dans une nouvelle... je suis en train d'hésiter, mais est-ce que tu peux en parler ou pas? Mais je crois que tu t'engages dans une nouvelle voie toujours associative. Je crois que tu es déterminé à rester dans ce secteur-là. Parce que je me dis, quelqu'un comme toi, avec ton parcours qui est assez extraordinaire, tu as dû sûrement faire l'objet de chasseurs de têtes qui sont venus te chercher pour aller dans le monde lucratif. Ça ne t'a jamais intéressé, je vais être un peu provocant, mais ça ne t'a jamais intéressé de gagner très bien ta vie, très très bien ta vie, en allant dans le secteur marchand plutôt que de rester sur le secteur associatif?
J'aime ce que je fais. Après, je gagne, je trouve, correctement ma vie. Alors effectivement, des gens qui pourraient avoir mon niveau d'études, mon expérience dans le secteur de l'entreprise classique... trouverais sans doute que
t'es mal payé.
que ça permet pas de vivre, mais moi je trouve que je gagne correctement ma vie et j'aime beaucoup ce que je fais. Enfin voilà, c'est pas toujours facile parce qu'effectivement tu l'as dit, le secteur associatif c'est dur et depuis plusieurs années maintenant, donc effectivement il y a des questions de recherche de financement, de faire en sorte de réorganiser parfois les choses pour que ça fonctionne. Donc c'est pas toujours évident, et c'est vrai qu'on aimerait plutôt se concentrer sur ce qu'on fait sur le terrain plutôt que d'avoir effectivement en permanence à se demander si les financements vont encore se réduire l'année prochaine. Mais j'aime beaucoup ce que je fais. Et je pense qu'effectivement, il y a aussi une question, de toute façon, sur... c'est un peu la même question que tout à l'heure, sur le sens qu'on donne à sa vie et à sa vie professionnelle. Il y a aussi la question des rémunérations. Et je pense que c'est un débat qu'il faudra aussi avoir en France un jour sur les écarts parfois abyssaux entre professions, entre personnes.
Entre genres aussi. Les femmes aujourd'hui, il faut le rappeler.
Ça progresse, mais c'est très lent et ça dépend des environnements. Mais effectivement, c'est un sujet qui est central. La question de l'égalité des salaires entre les genres. Mais on parlait de l'art et des musées. Quand je vais à un musée, dans un musée maintenant, et c'est souvent douloureux, j'ai pris le réflexe de regarder qui sont les peintres, les sculpteurs, sculptrices, mais malheureusement, il y en a peu, des peintres femmes ou je crois que j'avais regardé les chiffres, c'est 6 ou 7%, quelque chose comme ça, des œuvres dans les musées qui ont été réalisées par des femmes, parce que, c'est aussi ça, l'histoire de l'art, c'est aussi des femmes qui ont été empêchées ou on considérait que elles n'avaient pas à être artistes pendant longtemps. Donc c'est pas juste aujourd'hui parce qu'on veut pas montrer les femmes, mais c'est aussi parce qu'elles ont été empêchées et qu'elles ont réalisé beaucoup moins d'œuvres que les hommes parce que les hommes ont trouvé ça normal et les femmes c'était très compliqué et on faisait tout quelque part pour qu'elles ne puissent pas réaliser ce type d'œuvres. Et donc sur la question effectivement des rémunérations, des métiers, parce que les métiers féminins sont souvent moins rémunérés que les métiers masculins, donc tous les métiers du care justement, le travail social ou dans les crèches ou le soin à l'autre de façon générale est moins rémunéré que les métiers très masculins. Et ça pose question.
Encore une fois, le secteur associatif montre la voie. Il y a bien un secteur où les femmes sur les postes de direction sont le plus représentées, c'est le secteur associatif. La dernière étude qui date de quand même quelques années maintenant, 70% des femmes dirigent des structures associatives. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Quand on compare ce chiffre au secteur marchand, il est inversé. Et ça, c'est terrible. Et c'est la démonstration encore aujourd'hui que les efforts sont abyssaux avant d'arriver à un équilibre sur ces questions-là.
Et la répartition de la richesse, je pense qu'un jour, il faudra bien avoir ce débat en France et ailleurs, sans doute, de façon sereine, constructive, non partisane, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on le voit récemment avec les différents projets de taxes qui peuvent arriver dans le débat public. C'est tout de suite, on est pour, on est contre. Et de toute façon, aujourd'hui, il suffit qu'un parti propose quelque chose pour que tous les autres partis politiques lui tapent dessus. Donc, je crois qu'il va falloir, à un moment donné, trouver aussi une façon d'avoir des débats qui soient indispensables. Et la répartition de la richesse, c'est quelque chose qui me paraît pas absurde. Est-ce que c'est normal qu'un être humain puisse valoir 1 milliard de fois plus qu'un autre être humain? Enfin, est-ce qu'on peut pas juste poser la question comme ça à un moment donné et de se dire est-ce que c'est normal? Alors, on n'arrivera pas, je pense, à faire baisser très très vite les inégalités, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire effectivement pour que des métiers ou des gens aussi qui sont dans des situations très difficiles aujourd'hui puissent vivre dignement, correctement, un peu mieux que ce qui est qu'aujourd'hui. Et je trouve que c'est un débat qui est plutôt sain.
C'est un débat, à mon avis, interminable à ce jour, au moment où on parle avec l'actualité. C'est un débat interminable à différents niveaux. C'est-à-dire que, aujourd'hui, tu as six personnes, je crois, qui ont quasiment à eux seuls les un tiers ou les deux tiers de la richesse mondiale, ou peut-être un peu plus de personnes, mais en tout cas c'est énorme. Ça pose question, mais dans ce modèle économique dans lequel on est, le mondialisme, etc., le capitalisme, est-ce que on peut faire autrement? Est-ce que c'est un débat qui peine à être tranché? Quand je regarde l'actualité, quand je regarde les débats dans l'hémicycle, la représentation nationale, on voit bien que c'est clivé, que c'est tendu, que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, et pourtant c'est eux qui décident et c'est eux qui donnent le cap parce que on a voté aussi pour eux, hein, clairement, on les a élus et à eux maintenant aujourd'hui d'élaborer une société à la faveur des lois qu'ils peuvent voter. Et on voit bien que c'est très difficile aujourd'hui.
C'est très difficile. Je pense qu'il faudra plus de démocratie, qu'à mon avis, les solutions, elles passeront par plus de démocratie un jour, même si aujourd'hui, c'est pas forcément le sujet qui est le plus évoqué. Mais c'est vrai que j'avais suivi, comme beaucoup à l'époque, la Convention citoyenne pour le climat. Ouais. Et ce type d'initiative montre que quand des citoyens qui en plus étaient tirés au sort, donc il y en a qui avaient une conscience environnementale et d'autres pas du tout, qui étaient quasiment climato-sceptiques, je crois. Et quand on donne aux gens la possibilité de s'informer avec un temps de qualité, ils y passaient du temps, il y avait des experts qui venaient leur expliquer ce qui était la réalité du dérèglement climatique, ils pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient, il y avait des échanges qui pouvaient durer très longtemps. Et en fait, quand il y a ça, on s'aperçoit que les gens évoluent et qu'il y avait une harmonisation, en tout cas, entre dans la façon dont ces citoyens voyaient l'avenir, voyaient la responsabilité, notre responsabilité à tous, comme devant permettre de réagir face à ce qui va être difficile, on le sait tous, et qu'à un moment donné, de toute façon, le surtourisme ou le tourisme de masse dont on parlait tout à l'heure, ça ne sera plus possible, parce que aujourd'hui, ça correspond effectivement à un mode de vie qu'on peut encore qui peut encore durer un peu, mais qui ne pourra plus durer un jour, parce que ça a un impact, que ça soit l'avion ou de façon générale ce mode de vie qu'incarne ce tourisme de masse, on sait que ça ne sera plus possible. Et ça, c'est des scientifiques qui le disent et depuis longtemps maintenant. Donc
oui, mais Trump est pas d'accord avec toi.
Non, c'est vrai.
Et tu vois bien que. Qu'on a un gros problème.
On a un gros problème. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je ne sais pas bien. Mais en tout cas, on est beaucoup à essayer de continuer à faire notre part, comme le petit colibri. Et puis, à un moment donné, ça a été dit, hein, il y a des allées et retours dans l'histoire. Ça va, ça vient. Et à un moment donné, on reprendra un peu pied, on va retrouver la raison collectivement au niveau international, parce que tu le disais là, je dirige effectivement depuis peu de temps, j'ai une nouvelle mission qui est de diriger une association dans l'insertion, donc c'est des métiers magnifiques dans
d'utilité publique indispensable.
Oui, parce que ça permet à des gens qui sont éloignés de l'emploi de retrouver un boulot, parce qu'on n'arrête pas de dire dans notre société il faut que tout le monde travaille. Bon, ça on pourrait en débattre, mais en tout cas, aujourd'hui, notre société, elle est basée beaucoup sur le travail. Et qu'effectivement, si on n'a pas de travail, c'est compliqué. Et qu'une intégration dans notre société, une insertion dans notre société passe aujourd'hui beaucoup par le travail. Et donc, il y a des acteurs magnifiques comme cette association Espace que je dirige depuis peu de temps, où on a des encadrants qui forment des salariés en insertion, donc qui étaient des personnes en difficulté, jeunes sans formation, chômeurs de longue durée, des sortants de prison. Enfin, et ces personnes-là vont apprendre un métier. En l'occurrence, chez Espace, c'est l'écologie urbaine, c'est comment justement faire revivre la nature dans des paysages urbains avec de la biodiversité, enfin tout ce qui est indispensable aujourd'hui pour des questions de biodiversité et de climat. Et paradoxalement, c'est vrai que dans cette société dans laquelle on nous dit il faut que tout le monde soit au travail, les financements baissent. Une baisse a encore été annoncée pour l'année prochaine, probable, sur les budgets liés à l'insertion par l'activité économique, alors que c'est juste une aide qui permet à l'association d'embaucher des personnes dont aujourd'hui personne ne veut. Et ces personnes-là, dans un certain nombre de cas, quelques mois ou quelques années après, vont reprendre pied, vont trouver un boulot parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils ont été accompagnés. Et voilà. Et je sais pas si on peut faire plus vertueux, en fait, d'un point de vue social, que ce type d'activité. Et là où c'est agaçant et frustrant, c'est que sur ces activités, il faut se battre pour même pas voir les budgets augmenter. Aujourd'hui, on se bat pour que les budgets soient pas trop réduits, alors que ça correspond complètement à ce modèle de société qui manifestement quand même fait consensus chez beaucoup, c'est-à-dire le travail permet justement de trouver sa place dans notre société. et pour des personnes qui en sont aujourd'hui très très loin. Donc parfois c'est on a l'impression de vivre un peu quand même c'est un peu absurde quand même tout ça. Donc
c'est d'autant plus absurde, Nicolas, que il a été démontré que l'investissement aujourd'hui dans l'insertion, c'est un investissement, c'est-à-dire que ça produit plus de valeur qu'il ne s'agit de perte pour l'État en particulier.
Bah oui, parce que les gens ils vont retrouver un boulot, donc ils n'auront plus d'allocation. Et puis quand on travaille en général, on trouve quand même du sens, ou en tout cas on se sent moins isolé, et donc il y a pas tous les problèmes de santé aussi qui vont avec effectivement le moment où on perd complètement pied. Enfin, donc oui, effectivement, je te rejoins complètement.
À tout point de vue, et ça a été démontré, et on a le sentiment parfois que les politiques, à un certain niveau évidemment, n'entendent plus ou ne sont plus en capacité d'entendre l'obsession du déficit, etc. Cet arbitrage qui doit être fait, visiblement, il penche à la défaveur en fait de nos secteurs qui sont les plus vulnérables.
Mais parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on bricole tous collectivement, et particulièrement le politique, parce que en fait, il faut réinventer le modèle, et que justement la répartition de la richesse, la question environnementale qui est quand même qui va nous percuter de plein fouet, ça commence déjà aujourd'hui. Enfin, les questions effectivement de solidarité entre citoyens, comment on intègre aussi des personnes qui à un moment donné rejoignent notre pays et dont on a besoin. Et toutes ces questions-là, effectivement, elles sont à chaque fois traitées par le petit bout de la lorgnette ou de façon très instrumentalisée, chacun ayant son objectif politique ou politicien en tête. C'est pour ça que je pense vraiment qu'à un moment donné, il faudra se remettre d'accord sur ce qu'on veut, sur notre projet politique au bon sens du terme, collectif. Et ça demande effectivement beaucoup de démocratie, beaucoup de débats, pourquoi pas des référendums, mais tant qu'on n'aura pas fait ça, de se demander, et on le fait très rarement, qu'est-ce qu'on veut, dans quelle société on veut vivre, je crois qu'on n'y arrivera pas, et nos politiques continueront à bricoler, et c'est presque pas de leur faute. Par contre, effectivement, là où c'est peut-être leur faute, c'est le fait de ne pas chercher à impliquer plus les citoyennes et les citoyens.
On est en novembre, et en ce moment, je suis témoin d'une forme d'effervescence à l'échelle locale. Les élections municipales approchent et je vois énormément de monde commencer à s'y intéresser, à s'organiser, à se monter en collectif avec des projets et une volonté de faire bouger les lignes, de vouloir du mieux. Et toujours, je note, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique, il y a toujours une part de solidarité recherchée dans les projets qui sont en cours d'élaboration. Ce qui est intéressant, c'est que c'est partagé dans une forme de concertation locale avec des habitants, avec des jeunes du quartier, etc. Ça touche même les médecins de ville, ils sont approchés pour leur dire quel rôle vous attendez d'un élu ou d'une équipe municipale, qu'est-ce que vous voudriez voir changer dans votre commune, etc. C'est assez extraordinaire ce qui se passe là en ce moment, en novembre, et ça augure quand même que peut-être il y a une forme de prise de conscience que les choses vont se jouer davantage sur le local. Et je pense que la genèse de ça, c'est une forme de déception vis-à-vis des politiques à l'échelle de des députés, etc., du gouvernement. Je pense qu'il y a une forme de déception de voir un petit peu. Moi, je suis assez effaré. Je fais pas de politique, enfin, à l'échelle, dans l'esprit d'être militant politique, etc. Je suis, comme tout le monde, je regarde ça parfois. Mon doigt dérape et je tombe sur la chaîne LCP de ma télécommande. Et je vois parfois des débats qui sont, affligeants.
Lunaires.
C'est incroyable. Oui. De voir des gens adultes s'apostropher, etc. J'ai l'impression parfois d'être d'être dans ma maison d'enfant à caractère social sur le moment du goûter. C'est un peu ça que je vois en par pire. Moment, voilà. Mais en pire, effectivement. Et c'est assez. Moi, ça me frappe. J'ai toujours eu cette idée que s'engager en politique et arriver à être député, c'est être quelqu'un d'abord avec une tête bien faite, et puis très respectueux de l'humain. Et que on peut quand même si on a des idées divergentes, on peut quand même essayer de discuter et d'essayer de co-construire. Parce que ce qui les rapproche tous, ils ont tous un point en commun. Et j'ai parfois le sentiment que c'est oublié, c'est que ce sont des humains. Mmh. Et ça, moi, je me dis, mais comment est-ce que c'est aussi violent ce milieu ? Il y a de la violence dans ce milieu qui dégouline et qui me choque. Mmh. Et je me dis, mais c'est les gens qui nous dirigent, en fait. C'est assez préoccupant. Et je vous le disais, je suis assez optimiste hein, de nature. Et je tourne la tête et je regarde du côté local. Et je vois des élus, des maires que je croise parfois. Je pense à, par exemple, tout de suite à Monsieur Jiménez, qui est le maire de Garges-lès-Gonesse et qui fait un travail incroyable. Je pense au maire d'autres villes. Je pense à celui de Montmorency qui fait un travail incroyable et qui est très en soutien de la protection d'enfants sur un de nos établissements. Monsieur Tory, Maxime Tory. Et pourtant, je me suis jamais regardé quelle était leur couleur politique. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est leurs actes. Et qu'est-ce qu'ils font ? D'ailleurs, je serais incapable de vous dire quelle est leur couleur politique là tout de suite. Mmh. C'est simplement, j'ai été témoin de ce qu'ils peuvent faire dans l'intérêt collectif. Et ça, c'est extraordinaire. On va marquer une petite pause et on reprend dans quelques secondes.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Nous revoilà sur les voies de l'engagement avec Sophia Azouz et Nicolas Froissart qui nous ont fait l'honneur de nous rejoindre sur cette émission et de venir témoigner. Ça a été très instructif. On est passé sur plein de sujets, leur parcours individuel, mais on a aussi parlé de la société, de nos élus, de nos associations, des difficultés, mais aussi un regard aussi optimiste sur les choses. L'engagement, c'est ça aussi, c'est de pouvoir aussi débattre d'un certain nombre de phénomène de société. Et je vais inviter Nicolas, peut-être Nicolas d'abord, dire un mot, quelques mots, pardon, pour conclure cette émission. Un mot d'espoir, si tu veux bien, Nicolas.
Ben merci beaucoup pour ton invitation. Et un mot d'espoir, ben je crois qu'on a parlé finalement beaucoup de problèmes, mais aussi d'espoir, parce qu'en fait, pour le voir avec... mes chers héros et héroïnes du quotidien, en fait, je m'aperçois que depuis longtemps, en fait, à chaque problème, il y a des gens, des citoyens qui ont inventé des solutions. Donc les solutions, souvent, elles existent déjà. Le problème, c'est qu'on les connaît pas assez, ou qu'en tout cas, elles sont pas suffisamment portées ou soutenues par la société de façon générale. Et puis après, je crois qu'on a parlé aussi beaucoup du sens, et Sophia avait évoqué la liberté guidant le peuple de Delacroix, et je trouve que ça vaudrait le coup de repartir de ce tableau et de se demander qu'est-ce qui guide le peuple aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait guider le peuple, et peut-être qu'on s'interroge là-dessus tous, qu'on fasse bosser les gamins dans les écoles, qu'ils fassent leur propre tableau, leur propre liberté guidant le peuple, ou qu'est-ce qui doit guider le peuple, et avec carte blanche, en fait, on pourrait se dire, voilà, moi je pense que j'aimerais dessiner le peuple guidé par, enfin voilà, qui est un peu plus de discussion et de débat là-dessus. Je pense que ça nous ferait du bien à toutes et tous.
Sophia, sur ces mots de Nicolas.
C'est difficile de conclure d'espoir. Après Nicolas. je rajouterais que même si l'époque est lunaire, kafkaïenne, ce qui est logique devient logique dans une époque un peu... un peu décimée justement par les rouages de l'histoire que je connais un peu trop parfois. Je dirais que la beauté sauvera le monde et je souhaite vraiment à toutes les personnes de trouver un peu le syndrome de Stendhal. Cette chance que j'ai eue moi quand j'ai découvert le portrait de Pompadour, ma pneumonie amoureuse. Et de continuer aussi à... Il y a un mot que j'aime beaucoup dans l'éventail français, c'est apprivoiser, continuer aussi à s'entraider. Et après, c'est mon côté un peu fleur bleue, mais je trouve qu'on parle plus d'amour en fait en 2025, comme si c'était un peu une époque désuète. Mais moi, je crois encore au spleen de Baudelaire et je crois aussi que les mots sont des troubadours et qu'il faut continuer à lire, à aller au musée et que la culture reste l'une des armes les plus puissantes. Et d'ailleurs, on le voit bien en fait. Il suffit de relire Étienne de la Boétie dans les pays matraqués par des tyrans. La première chose que font les tyrans, qui sont certains toujours d'actualité en 2025, c'est qu'ils enferment les intellectuels. Pourquoi ? Pour que nous cessions de penser.
La beauté sauvera le monde.
Oui.
Merci Sophia pour cette conclusion, pour cette émission. Je vous retrouve très vite dans une prochaine émission. On parlera dans la prochaine émission d'écologie justement, Nicolas, avec quelqu'un que tu connais bien, Pierre Pajot, et avec Sana Seitouli, qui est la représentante de Banlieue Climat, qui a écrit un livre et qui viendra nous en parler.
Merci à tous et bonne journée sur IDFM Radio. We'll be right back.